Véronique Larose, bonjour.
Bonjour, Luc.
Directrice générale de l'Association du Québec pour l'intégration sociale, qui va changer son appellation, et je dis bravo.
Bien, merci. Ouais. Oui, on est contents, nous aussi.
Pour ce week-end?
Oui, à vrai dire, le 27 septembre, on a un bel événement, un cabaret qu'on organise. Ouais. Et oui, effectivement, on va s'appeler la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Donc, un nom qui peut-être dit un peu plus que ce qu'on fait.
Oui.
La KIS, c'est sûr, l'acronyme était bien connu, existait depuis une trentaine d'années. Nous, notre fédération existe depuis 1951, mais les organisations changent, se modifient, respirent.
Oui, puis tout le monde veut s'intégrer socialement.
Oui,
hein, que ce soit les immigrants, que ce soit les Premières Nations, que ce soit...
Oui, alors, aujourd'hui, effectivement, 30 ans plus tard, c'était un nom qui était peut-être moins... adéquat, puis qui disait moins ce qu'on faisait. Donc aujourd'hui, Société québécoise déficience intellectuelle, c'est clair.
Le 19 septembre dernier, la déficience intellectuelle était, disons, à l'agenda de plusieurs candidats, candidates aux élections provinciales. Et la KIS en a organisé un des deux. Pourquoi un débat portant uniquement sur la DI, étant donné que la semaine précédente, avec la COFAN, on avait déjà eu un débat pour la personne avec une limitation.
Pourquoi? C'est
on voulait vraiment... Il n'y a pas de mauvaise
réponse. Non, il n'y a pas de mauvaise
réponse. Je ne suis pas choqué, même si j'ai animé le...
Ah oui! Non, puis on était en très bon terme avec la COFAN, comme toujours. Non, c'était vraiment pour donner une attention particulière à la déficience intellectuelle. Mm-hmm. C'est sûr que les dernières années, avec il y a eu des coupures, une baisse d'intérêt par rapport aux décideurs, en tout cas avec la déficience intellectuelle. Donc, on voulait manifester notre présence et parler d'enjeux assez particuliers qui peuvent quand même toucher l'ensemble, mais des éléments vraiment spécifiques en déficience intellectuelle. Fait que c'est pour ça qu'on a eu l'idée d'organiser quelque chose de particulier.
Et pourtant, probablement que dans les deux ou trois dernières années, l'événement qui a touché le handicap, qui a été le plus médiatisé, était ce qui a entouré la mise à pied de certains travailleurs dans un ou deux magasins Walmart.
Effectivement, oui. Ça, au niveau, on a été extrêmement sollicités pendant cette période-là. Ça nous a permis de parler de déficience intellectuelle, mm-hmm. mais également d'employabilité. Les gens ont pris pleine mesure, en tout cas, de la situation des personnes qui travaillent on appelle ça des plateaux de travail.
Ouais.
Donc toute cette... Nous, c'est notre réalité, c'est notre pain et notre beurre à tous les jours, mais pour monsieur, madame, tout le monde, il n'y avait aucune connaissance par rapport à ça. Ça fait qu'effectivement, ça a été... On en a parlé, mais au débat, on n'a pas juste parlé d'employabilité, on a parlé de l'élément, je voudrais dire, déclencheur par rapport à la colère des parents. Beaucoup, ça a été le plan d'action en autisme, quoi qu'on n'a rien contre des investissements en autisme, au contraire. Mais on se dit toujours qu'à besoin similaire, devant avoir une réponse similaire.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est sûr qu'on a parlé un peu de ça. On a parlé d'éducation. On a parlé naturellement de services sociaux, également de milieu de vie, d'hébergement. Donc, des questions. Puis, c'était intéressant également, il y avait des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui ont pu poser des questions aux candidats. Donc, ça, c'est un aspect qui est important pour nous.
Je suis curieux. Je n'étais pas sur place. Et j'ai vu que le PLQ n'avait pas pu envoyer une personne pour représenter ses idées. Est-ce que le plancher a été vraiment offusqué de cela ou il y a tellement de débats et vous n'êtes pas les seuls à ne pas avoir eu un candidat pour les quatre formations? Les gens quand même, disons,
Ils étaient déçus.
Okay.
C'est sûr qu'il y avait un intérêt de leur part. On a été bons joueurs, on leur a envoyé nos questions à l'avance. On leur avait demandé si c'était possible de nous envoyer par écrit des réponses. On n'a pas eu de réponse. Donc, c'est sûr qu'il y a une déception parce qu'on a plusieurs questions. Puis au fil des dernières années, on a posé beaucoup de questions au gouvernement. Puis on se fait souvent répondre plus par un ensemble de chiffres ou d'investissements ou de nombre d'argent, de millions, de milliards qui sont investis, mais des questions plus spécifiques, là, plus qui touchent vraiment le cœur même, là, puis il y avait des parents dans la salle, des personnes elles-mêmes qui ont une déficience intellectuelle, on aurait bien aimé qui puissent venir répondre à ces questions-là.
Annick, on se pose jamais la question, mais comment une personne avec une déficience intellectuelle vote-t-elle? Est-ce qu'elle doit répondre à une question? Est-ce que n'importe qui, même un non-verbal, a le droit de voter? Comment ça fonctionne?
Tout à fait. Ce sont seulement les personnes qui sont sur curatelle qui ne peuvent pas voter. Okay. Okay. Donc, toutes les personnes peuvent aller voter. Moi, j'ai une fille qui est trisomique, là, qui a 23 ans, donc elle va voter, Marie. Moi, je peux l'accompagner. Et c'est sûr que moi, je porte... Je prête serment là, pour m'assurer là, que je ne fais pas ça toute la journée là, y aller avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et elle vote. Moi, je suis juste là, dans le fond, très légèrement là, pour si elle a la difficulté à plier son billet. Mais la plupart du temps, maintenant, elle est allée depuis plusieurs fois là, quand même. Ça fait 5 ans là, qu'elle a le droit de vote. Ouais. Donc, elle est vraiment rodée. Puis, elle fait son choix. On peut en discuter un peu à la maison, et ainsi de suite. Donc, oui, elle va voter.
Les demandes, les souhaits de la CIS, que ce soit au gouvernement sortant ou au prochain gouvernement, là?
Bien, essentiellement, je vous dirais, c'est sûr qu'on parle beaucoup de réinvestissement au niveau de la déficience intellectuelle. Il y en a plusieurs. On a fait un document d'orientation puis de demande. Il y en a plusieurs. Mais je vous dirais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sûr que oui, il y a une question d'investissement, il y a une question d'argent parce que c'est le nerf de la guerre. Sauf que c'est également la façon qu'on soutient les personnes qui ont une déficience intellectuelle, où là, on se questionne beaucoup. Maintenant, on y va, quand on regarde le cadre de référence au ministère, on parle beaucoup d'épisodes de soins. On va travailler, on va aller répondre plus à une situation d'urgence ou un problème de comportement. Mais nous, on continue à préconiser qu'il faut soutenir la personne dans son développement. Et c'est sûr qu'on comprend quand les enfants sont jeunes, mais tout au long, c'est comme si la notion de réadaptation est tombée. Et là, on est plus dans d'éteindre des feux plutôt qu'en prévention d'incendie. Mmh. Donc, en règle générale, je pense que c'est cette attention-là qui a changé parce que c'est une question... La première ligne, la deuxième ligne, on en a tellement parlé. Aujourd'hui, on appelle ça le service spécifique, le service spécialisé. C'est que le service spécialisé est là pour répondre à des situations d'urgence, mais le service spécifique, donc la première ligne, là, les C3S, il n'y a pas de réponse encore par rapport à ça. Puis je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais on espère que, justement, une personne qui a une déficience intellectuelle puisse avoir un service, un soutien en continu. Parce qu'en déficience intellectuelle, c'est pas un modèle médical. Le modèle médical, ça va si vous faites enlever les amygdales, c'est clair, on les enlève, après ça, c'est fini, là, vous guérissez, on a fini l'épisode. Personne qui a une déficience intellectuelle, elle n'arrête pas d'avoir une déficience intellectuelle une fois que l'épisode est terminé. Donc, je pense que c'est un peu la façon de soutenir la déficience intellectuelle. On a déjà été cité en exemple au Québec. Malheureusement, dans les dernières années, on a un peu reculé. Il y a eu beaucoup de fermetures de dossiers. Nous, on entend beaucoup au bureau des familles qui sont laissées pas mal à elles-mêmes. Donc, on remet ça en question. Fait que je dirais que c'est sûr qu'on peut y aller de manière plus précise sur certains enjeux, mais de manière générale, c'est vraiment ça. Je pense qu'il va falloir donner un coup de barre et puis un peu revenir sans nécessairement faire du copier-coller d'avant, mais de le travailler autrement.
En santé, si j'ai une déficience intellectuelle et que j'ai un médecin de famille ou bien que je vais à la clinique, est-ce qu'ils savent comment interpréter ce que je dis et ce que je veux dire et ce que je devrais dire, parce que c'est peut-être erroné de ma part, mais j'ai l'impression que parfois, on peut peut-être vouloir cacher qu'on a mal ou alors qu'on n'est peut-être pas en si bonne santé que ça, ou comme tout le monde, finalement.
Oui, vous avez raison, parce que moi, je pense que le milieu n'est pas nécessairement tout le temps adéquat pour accueillir une personne qui a une déficience intellectuelle. Ça prend un doigté, mais ça prend... Ce qu'il faut, la première chose, puis qu'il n'y a pas beaucoup dans le réseau de la santé en ce moment, c'est du temps.
Ouais.
Donc ça, c'est la première chose de base. Donc, d'accueillir la personne, de s'adresser à la personne et non pas à la personne qui l'accompagne. Moi, le nombre de fois que je vais dans différents milieux avec ma fille, puis c'est moi qui reçois la question et non pas ma fille.
Mais c'est que c'est tellement plus facile.
C'est plus facile. Mais... En même temps, je trouve que c'est on se prive
de faire les coins ronds.
Oui, on se prive un peu puis on infantilise beaucoup la personne. Ouais. Donc, je pense que il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire du milieu. Il y a des choses très bien qui se font, mais je pense qu'en règle générale, on peut pas dire quand on va dans le milieu de la santé que automatiquement là, la personne qui a une déficience intellectuelle va comment je pourrais dire, avoir un accueil là, qui est très, très adapté à sa condition.
Bon, c'est certain que ça vaut ce que ça vaut, mais dans le débat de la semaine dernière, est-ce que vous avez entendu des choses qui vous rassuraient sur l'avenir possible politique si une ou l'autre des formations était élue, bien sûr, le gouvernement sortant n'étant pas présent à ce débat?
C'est sûr que pour nous, c'est difficile. On est apolitique, hein? Ouais. Fait que c'est sûr que c'est difficile de dire, voilà, mais...
Non, mais on veut des résultats,
ouais,
on
c'est
souhaite
ça. Mais c'est sûr que je vous dirais qu'on a travaillé les dernières années beaucoup plus étroitement avec Dave Turcotte.
Du Parti québécois. Comté, circonscription de Saint-Jean.
Saint-Jean, hein? Ouais. Effectivement. Donc, il y a une attention particulière qui a été... puis c'est clair que M. Turcotte connaît très, très bien le dossier. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec lui. Fait que c'est sûr qu'il y avait une longueur d'avance, ouais, par rapport aux deux candidats. C'est sûr qu'il y a des éléments également de Québec solidaire qui sont intéressants quand on touche à l'accessibilité universelle. Je pense qu'il y a une connaissance du dossier qui est très importante.
C'était Benoît Racette qui représentait QS. Qui représentait la coalition? J'ai vu son nom, mais
c'est
je ne la connais pas.
Harrell, c'était une candidate dans le comté de La Porte.
Ouais,
moi non plus, je ne la connaissais pas. C'est une gestionnaire du réseau de la santé.
OK, quand même.
On est resté un peu sur notre faim.
Okay.
Je ne cacherai pas par rapport aux propositions. Peut-être que...
D'une semaine à l'autre, ils ne réussissent pas à se démarquer avec la personne qui a une limitation fonctionnelle.
Non, mais je pense qu'ils ne connaissent pas beaucoup ça ou ne se sont pas imprégnés nécessairement. Alors, je vous dirais que c'est sûr qu'à la fin du débat, c'était assez clair là, que M. Turcotte s'en était tiré beaucoup mieux.
Ouais.
Il y a eu des annonces qui ont été faites en fin de semaine, justement, de réinvestissement. Donc, c'est sûr que nous, en déficience intellectuelle, c'est plutôt rare qu'on est dans des plateformes, puis que même le mot déficience intellectuelle est là. Donc, c'est sûr que nous, on salue quand il y a une attention particulière, mais vous comprendrez que nous sommes apolitiques, donc on ne peut pas favoriser un parti plutôt que l'autre, et nous serons toujours ouverts à travailler avec eux au lendemain du 1er octobre.
Là, je remarque que vous serez la directrice générale de l'AQDS plutôt que l'AQIS. Est-ce que c'est une démotion parce qu'on vient de perdre 5 lettres?
Ça va être la SQDI.
Ah!
Ça va être la Société québécoise de déficience intellectuelle.
D'accord. Mais
Donc,
j'espère que vous avez négocié ça dans votre nouvelle entente contractuelle.
C'est ça.
Merci beaucoup, Annick Larose.
Ça me fait plaisir. Merci.
Elle est directrice générale de la bientôt Société québécoise
de la déficience intellectuelle.